Bonjour, moi je suis Emmanuelle de Frémont, je suis psychomotricienne et accueillante au Pâte au Beurre.
Bonjour, je suis Hélène Bazek, je suis psychologue clinicienne et accueillante au Pâte au Beurre.
Alors on nous a demandé de parler de la gestion des émotions. Ça nous a amené à nous poser plusieurs questions qui vont être le fil rouge de notre propos. Déjà, au Pâte au Beurre, quand on fait des accueils, on essaye d'inviter les parents à réfléchir sur comment ils sont parents. Ce qui suppose d'en parler. Mais on ne donne pas de conseils, car on pense qu'il n'y a pas une seule manière d'être parent, ni de mode d'emploi, mais que l'enjeu est d'accompagner les parents à construire, à inventer leur façon à eux d'être parents. Bien sûr, on peut raconter les grandes lignes de comment ça grandit un enfant, mais chaque enfant est différent. C'est très important pour nous de le rappeler, et aussi de sensibiliser au fait qu'être parent, faire famille, ça s'inscrit aussi dans l'histoire de chacun. Donc, comme je le disais, en recevant ce thème de gestion des émotions, on a commencé par se poser différentes questions et vous proposer nos réflexions. Tout d'abord, ça veut dire quoi, gestion? Et puis, de quelles émotions parle-t-on? Et ensuite, à quoi ça sert les émotions? Et enfin, comment est-ce qu'on les reçoit, ces émotions?
Alors moi, je vais commencer par vous énoncer des choses autour de ce terme de gestion. Qu'est-ce qu'on entend par la gestion et qu'est-ce qu'on attend de la gestion d'une émotion? Ce qui nous est d'abord venu, quand on parle de gestion, ça nous renvoie à l'idée de maîtrise, de contrôle ou bien de régulation, d'équilibre. On a cette idée que ça ne dérange pas. Alors ça ne dérangerait pas qui, soi ou bien les autres. On a l'idée de se libérer, l'idée de ne pas se sentir envahi. Dans une approche psychodynamique, on va considérer qu'il s'agit d'amener à contenir plutôt que d'être dans une notion de gestion. C'est l'idée d'accueillir ce qui se passe en soi sans en être débordé. Cet accueil-là, il se fait dans les pensées, mais aussi dans le corps. Ça nous renvoie aux sensations. Quelles sont les sensations que nous pouvons avoir? Est-ce que ça agite ou est-ce que ça nous fait nous replier sur nous? Et à l'intérieur, est-ce qu'on se sent tendu? Est-ce qu'on a chaud? Est-ce que ça papillonne ou est-ce que ça bouillonne? On a un peu tout ça autour du terme de gestion et on va donc maintenant s'interroger à propos vraiment des émotions.
Et oui, de quelles émotions parle-t-on? Quelles sont celles qu'on aurait besoin de gérer? Est-ce que ce sont toutes les émotions qu'on voudrait pouvoir gérer ou seulement certaines? La gestion de la joie, par exemple, est-elle importante à gérer? A-t-on besoin vraiment de la gérer? L'humain est un être de sensations et d'émotions. L'émotion, c'est notre première forme d'expression. Le bébé exprime corporellement les sensations et émotions qui le traversent. Il n'est pas en capacité de les nommer, de les gérer. Il a besoin de l'autre pour les accueillir et les réguler. La régulation, elle passe par la relation. La relation aux parents, qui est l'entourage premier du bébé. Quand l'émotion est là, on a besoin de venir construire comme une digue qui vient contenir par le corps de l'autre, par les mots qu'on peut mettre. Pour grandir, on a besoin des émotions et on a besoin qu'elles soient accueillies, parlées. Puis on a besoin de les accueillir nous-mêmes pour les transformer en mots. Au début, c'est l'entourage parental qui propose les mots. Les parents essaient de décrypter les manifestations corporelles du bébé. C'est un accordage qui se fait petit à petit et qui est permanent. Ces mots qui sont posés, c'est ce qui va permettre au bébé, puis à l'enfant, au préadolescent et à l'adolescent d'avoir une mise en sens de ce qui l'anime à l'intérieur de lui. Il y a des différences interindividuelles. On n'a pas tous la même façon de recevoir ça, de le transformer. Chacun construit ses propres ressources. Et chaque parent ou personne qui s'occupe d'enfants va aider l'enfant avec aussi son histoire à lui, sa propre capacité à recevoir ce qui est adressé par les émotions de l'enfant.
Alors, les émotions, à quoi ça sert ? Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les émotions, elles ne sont pas là pour rien. Elles sont même vitales, elles sont involontaires, elles sont universelles et elles participent à notre survie. Elles ont une fonction de communication. Il y a parfois la tendance à vouloir quantifier les émotions, mais rarement celle de prendre en compte la dimension qualitative d'une émotion, c'est-à-dire à quoi ça sert, pourquoi c'est là. Les émotions, elles sont légitimes. Elles ont le droit d'être là, d'être vécues parfois très fortement. Elles nous construisent et elles nous traversent tout au long de la vie. Elles sont parfois là plusieurs en même temps, comme un gros paquet de nœuds qu'il n'est pas toujours facile à démêler. L'émotion, c'est du mouvement. Dans l'étymologie, émotion, le E signifie hors de, et motion qui veut dire mouvement. C'est un mouvement qui part de l'intérieur de nous-mêmes et peut s'exprimer à l'extérieur par notre corps, puis qui peut être traduit par des mots. La peur, la colère, sont des états internes qui contribuent à assurer la survie en cas de danger. La peur, elle organise le corps de l'individu pour la fuite. La colère, elle organise le corps de l'individu pour la défense. L'humanisation en a développé la part psychique. Il faut toujours avoir à l'esprit cette fonction vitale des émotions de base. La peur, elle est souvent utilisée par les adultes dans l'éducation des enfants pour les tenir à distance de certains dangers. Attention, ne traverse pas la route sans regarder parce qu'il y a du danger. La colère, c'est un peu comme dans les cyclones. Elle va transporter l'excès de chaleur d'une zone interne vers une zone externe pour pouvoir échapper aux brûlures internes faute de savoir ou de pouvoir l'utiliser sur place. La peur et la colère, ce sont des émotions qui sont difficiles à côtoyer parce qu'elles interrogent les détresses et les impuissances humaines. La joie et la tristesse, elles n'assurent pas notre survie immédiate, mais elles traduisent aussi la couleur de notre monde interne. Les émotions, ça nous permet de faire face aux crises et aux plaisirs de la vie. C'est pour ça qu'on en a besoin. Il y a des moments dans la vie d'un humain où il doit faire face à la frustration, au renoncement. Par exemple, grandir, ça suppose d'être frustré, de renoncer, ça renvoie à l'idée de la perte. Et les émotions, comme la colère ou la tristesse, ça aide à traverser ces moments. Les émotions nous renseignent sur nous, sur comment nous vivons un moment ou un événement. Pendant l'enfance, nous sommes en apprentissage de la transformation. Cet apprentissage, il va passer par du jeu symbolique chez les enfants. C'est par exemple tous ces jeux où l'enfant va fâcher ses doudous qui ont fait une bêtise, ou bien les consoler parce qu'ils sont tristes, etc. Ce sont des moments que l'enfant a pu vivre auparavant qu'il remet en scène, à l'identique, mais de manière parfois un peu transformée. Puis après, plus l'enfant grandit, plus les émotions vont se complexifier. Et c'est pas toujours facile, même quand on a les mots, d'arriver à dire ce qui nous anime. Et ça, les adolescents le savent bien. On vient un peu de mieux comprendre à quoi peuvent servir les émotions et leurs fonctions essentielles. Mais alors, quand elles sont là, qu'est-ce qu'on fait de ces émotions ?
Et oui, quand elles sont là, comment les recevoir, ces émotions ? Et comment recevoir aussi celles des autres ? Certaines émotions sont plus faciles à recevoir, à accueillir, à contenir. On tolère mieux quelqu'un qui va être bruyant dans l'expression de la joie que quelqu'un qui va l'être dans l'expression d'une colère. C'est nécessaire de se demander ce qui s'exprime par une émotion. Est-ce que l'enfant, l'adolescent ou l'adulte peut mettre des mots dessus? Ou est-ce qu'il va avoir besoin d'un étayage ou d'un support pour y parvenir? Quand l'émotion est forte, ça peut être difficile de mener une réflexion sur ce qu'on vit dans le présent. On peut attendre, en reparler quand le temps de la crise est passé. Le regard et les mots de l'autre aident à voir et identifier son monde intérieur. On peut utiliser des supports aussi, comme des histoires, ou bien des jeux, pour mettre en scène les émotions. Tout ça, ça aide à progressivement contenir ses émotions. Et dans tout ça, comment recevoir l'émotion de l'autre? Quand on est parent, aider son enfant ou son adolescent à grandir, c'est aussi devoir poser des limites. Donc ça, ça peut faire naître des émotions. Parfois, ce n'est pas facile. Surtout quand elles sont fortes et qu'il y a l'expression d'une tension, d'un mal-être. Ça peut renvoyer à soi, à ses propres émotions. Ce n'est pas facile de voir qu'on va provoquer une émotion chez l'autre en posant nos limites. Ça nous renvoie à notre capacité à vivre nos propres frustrations. Et puis, il ne faut pas oublier que les parents aussi, parfois, ils sont pris dans leurs émotions et que c'est tout à fait banal. C'est important d'être attentif à la circulation des émotions de l'adulte vers l'enfant et inversement. Ça peut faire comme un effet miroir. Parfois, ça rend compte de la complexité de l'inconscient. Dans tous les groupes, y compris les familles, les émotions se partagent, se réduisent, s'amplifient, avec une expression collective et individuelle. Fréquemment, un individu exprime soit l'émotion commune, soit l'émotion d'un autre membre du groupe. Alors pour finir, on a envie de rappeler que l'émotion est quelque chose de sain et de nécessaire, d'essentiel même. Et c'est à chacun de s'intéresser à ce qui se passe en lui, dans ses propres émotions.